Donc nous allons voir la parabole des talents aujourd'hui. Et ça c'est dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Et c'est les versets 14 à 30. On va lire ces versets tout à l'heure. En fait, je voudrais lire quelques autres versets pour démarrer aujourd'hui. Concernant les talents et nos dons. Et que je parle dans le sens que ça soit naturel ou miraculeux. Donc Jean-Baptiste a dit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Je répète, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Et il parlait de son ministère. Aussi, Paul a dit, nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée dans Romains chapitre 12, verset 6. Et puis j'ai mis ensemble quelques versets dans 1 Corinthiens chapitre 12 et nous lisons donc, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Les distribuant à chacun en particulier, comme il veut, c'est versets 4 et 11, pour l'utilité commune, verset 7. Donc, pour voir qu'en fait, il y a plein de choses dans nos vies que, à la fin, on devrait quand même donner gloire à Dieu, parce que c'est Dieu qui nous rend capables. Il nous a fait comme nous sommes. Il nous a fait tous différents. Et donc, on n'attend pas que tout le monde fasse la même chose avec leur vie, mais on attend que tous les chrétiens utilisent leur vie pour glorifier Dieu, n'est-ce pas? Alors, en parlant de cette parabole des talents, il faut avoir dans l'esprit, parce que c'est un talent particulier, hein, une parabole particulière. Donc, Jésus-Christ était très conscient du destin final, éternel, des gens. À maintes reprises, Jésus a exhorté les gens d'éviter l'enfer à tout prix. La mission même du premier, parce que Jésus va venir deux fois, il est déjà venu une fois, il va venir une seconde fois, mais la mission même du premier venu de Jésus était pour délivrer les hommes d'une éternité en enfer en payant lui-même le prix de notre délivrance. Donc, encore dans cette parabole, Jésus nous met en garde concernant la question ultime. Où passerez-vous l'éternité? Parce que nous voyons dans le Nouveau Testament que Dieu veut que tous viennent à la repentance. Et même Jésus a dit que l'enfer n'était pas fait pour les hommes, mais pour le diable. Donc, Dieu ne veut pas. Et tout ce que Jésus dit, c'est pour que les gens évitent un tel avenir. Comme la plupart des paraboles, celle-ci, que nous allons lire dans quelques moments, concerne le royaume des cieux. Donc, je vous répète qu'on a déjà vu deux fois, trois fois, que ce royaume des cieux, c'est toute l'humanité entre le premier venu de Jésus et le second venu de Jésus. Et donc, la plupart des paraboles parlent de cette situation, le temps défini, et Jésus a dit dans une des paraboles, que ça concernait le monde entier. Ce que Dieu attend de chaque personne en ce moment, c'est qu'elle ait confiance en son Fils, Jésus-Christ. Alors, dans cette parabole, nous allons voir que toute personne est dotée de Dieu de divers talents, de diverses capacités. Ce sont des dons de Dieu qui donnent à toute personne selon son gré. La parabole va illustrer les capacités humaines en utilisant les poids d'argent. Donc on aura des talents. Un talent, deux talents, cinq talents. Donc, un talent vaut à peu près 21 000 euros. Un talent d'argent. Ce n'est pas un talent d'or, c'est un mot spécial qui veut dire un talent d'argent. Deux talents vaut 42 000 euros. Et cinq talents vaut à peu près 105 000 euros. Donc, c'est quand même des sommes appréciables. Ce n'est pas comme l'autre parabole qu'il y avait quelqu'un qui devait 10 000 talents. Là, c'est seulement 1, 2 et 5. OK, donc la somme, c'est bien moins que celui qui avait une grande dette qui montrait notre dette de péché, qui est extrêmement lourde, n'est-ce pas? Alors, on va lire la parabole. Donc, c'est Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30.
Car il en est comme d'un homme qui, s'en allant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Et à l'un il donna 5 talents, à l'autre 2, et à l'autre 1, à chacun selon ses forces, et il partit aussitôt. Or, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla et trafiqua, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui en avait reçu 2 en gagna aussi 2 autres. Mais celui qui en avait reçu qu'un, s'en alla et creusa dans la terre, et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et il leur fit rendre compte. Alors, celui qui avait reçu 5 talents vint et présenta 5 autres talents et dit : « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, en voici 5 autres que j'ai gagnés de plus. » Et son maître lui dit : « Cela est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Et celui qui avait reçu 2 talents vint et dit : Seigneur, tu m'as remis 2 talents. En voici 2 autres que j'ai gagnés de plus. Et son maître lui dit : Cela est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent vint et dit : Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui recueille où tu n'as pas répandu. C'est pourquoi, te craignant, je suis allé et j'ai caché ton talent dans la terre. Voici, tu as ce qui est à toi. Et son maître lui répondit : Méchant et paresseux serviteur, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je recueille où je n'ai pas répandu. Et il te fallait donc donner mon argent au banquier, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec l'intérêt. Ôtez-lui donc le talent et le donnez à celui qui a les 10 talents. Car celui qui a, on donnera, il aura encore davantage. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Jetez donc le serviteur inutile dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents.
Donc, dans cette parabole, nous trouvons 3 serviteurs auxquels leur maître a confié une somme d'argent. Dans la parabole, donc, le maître représente le Seigneur Jésus-Christ, qui est parti très longtemps, mais qui reviendra un jour, le jour que son Père aura fixé. Les 3 serviteurs représentent des individus à qui Dieu a donné la vie. 2 ont choisi d'utiliser leur vie au bénéfice du maître. Il est vrai que le maître est parti et on pourrait raisonner que au long terme, le maître ne reviendra jamais. Mais les 2 premiers serviteurs ont confiance dans la parole de leur Seigneur et donc ils agissent en vue de son retour. Ils sont croyants. Ils aiment leur maître. Mais le 3e individu, lui, il sait que son maître a promis de revenir. Mais il pense qu'il est fort possible qu'il ne reviendrait jamais. N'ayant pas confiance au retour de son Seigneur, ce dernier serviteur s'organise, attention, pour voler l'argent. Il va vivre pour lui-même, hein, parce que c'est Dieu qui nous donne la vie. Donc, Dieu attend à ce que nous vivons pour lui. Mais ce serviteur, il prend ce que Dieu lui a donné, il va le garder pour lui-même. OK? Au lieu de laisser des traces de propriétaire ou de propriété de cet argent chez les banquiers, hein, parce qu'il amène ça chez le banquier, et bon, ils vont écrire le nom de la personne et puis ça va être enregistré. Et puis, les bénéfices vont aller au propriétaire, n'est-ce pas? Et puis, si le propriétaire ne revient jamais, eh bien, les héritiers du propriétaire allaient avoir l'argent si c'était à la banque, n'est-ce pas? Mais il va cacher ça dans la terre, il n'y a pas de trace. C'est là. Et s'il ne revient jamais, c'est à lui. Mais s'il revient, il le rendra, il dit, voilà, je n'ai rien perdu. J'ai rien gagné, c'est à toi. Donc en fait, le fait qu'il a caché l'argent, en fait, ça signifie qu'il souhaitait la mort de son maître. Il souhaitait qu'il ne revienne pas. Et le fait, c'est que cet homme n'était pas croyant. Et on le voit. Vous vous souvenez de l'autre parabole, donc, de livret dans le champ. Donc, le Seigneur a semé le bonne graine, mais un ennemi a semé livret. Donc, c'était le même champ, mais il y avait le bonne graine et livret. Et cet homme est un ivret, une graine d'ivret parmi le blé. Comme j'ai dit, il n'aime pas son maître. Et on peut le voir par son opinion. Il a une haine pour le maître qui est vu comme un ennemi. Et il craint son maître comme s'il était un esclave qui agissait par contrainte ou par obligation, comme s'il était forcé. Donc on voit bien que cet homme n'était pas du tout de le même esprit que les autres deux. À la fin de cette parabole, les deux serviteurs croyants sont récompensés par le Seigneur pour leur foi, pour leur fidélité, pour leur activité, leur travail. Donc, ils auront le bonheur éternel. Donc, la parabole avant celle-ci, dans le texte de Matthieu, concernait les 10 vierges, et le point dans cette parabole-là, c'était d'être prêt. Ici, le point, c'est pas simplement d'être prêt, mais d'être actif dans notre... Le fait qu'on est prêt, mais actif. Et ces deux croyants, attendant leur Seigneur, étaient actifs jusqu'à son retour. Mais le troisième serviteur, lui, sera jeté dans les ténèbres de dehors et éloigné de tout bien. Il sera dans la honte et la misère éternelle. Alors, comprendre que c'est cette parabole, Jésus nous exhorte à être croyants en lui, fidèles à lui et actifs ou actifs pour lui. Car Jésus va revenir. Et quand il revienne, qu'est-ce qu'il va trouver? Le premier venu de Jésus était pour que nous soyons sauvés, pour que toute personne qui veut être sauvée puisse être sauvée. Mais son second venu sera en jugement avant qu'il démarre le millénium. Donc, Jésus est venu mettre à notre garde pour vérifier qu'on fasse partie des croyants. Il ne nous encourage pas d'être le troisième serviteur. Ce n'est pas le point. Le point, c'est d'éviter d'être ce troisième serviteur. Je vais lire dans Actes chapitre 17 et versets 30 et 31. Acts chapitre 17, versets 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, donc pas simplement à tous les croyants, ou à tous les bonhommes, ou à toutes les bonnes femmes, mais à toutes les personnes, tous les hommes, en tout lieu, donc il n'y a personne qui est exclu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Et il a désigné qui? Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le, cet homme qui va juger tout le monde, en le ressuscitant des morts. Donc c'est Jésus, le maître même, qui va, quand il revienne, être le juge de chacun. Donc là, c'est le grand point de cette parabole. Mais il y a un autre point que je voudrais quand même toucher. Et dans cette parabole, nous voyons que notre vie et nos talents personnels sont les dons de Dieu. Il nous a confié ce que nous sommes et ce que nous pouvons faire. Chacun des talents différents. Donc, dans la parabole, question de l'argent et tout ça, c'était pour montrer que il faut être actif et utiliser ce qui appartient à Dieu au bénéfice de Dieu, n'est-ce pas? Mais dans l'autre sens, donc notre mot talent en français et en anglais et peut-être dans d'autres langues vient de cette parabole. Hein? Nos talents viennent de Dieu et Dieu attend à ce que nous mettons nos talents à son service. En tant que croyants, nous avons à utiliser notre vie pour le bien de notre Seigneur et pour le bien de nos proches, les gens qui nous entourent. Autrement dit, aimer Dieu et aimer ton prochain. Nous pouvons accomplir ceci seulement dans les limites des capacités que Dieu nous a données. Il n'y a pas de place pour compétition ou de jalousie. Mais il y a la place pour des encouragements et des exhortations, des édifications. Donc c'est bien d'encourager les uns et les autres, de mettre nos talents au bénéfice des autres. Mais ce n'est pas pour dire que « Ah ben moi, j'ai fait ça mieux que toi !» Comme une comparaison, une compétition, vous voyez. Donc j'ai préparé une feuille. Donc, je vais lire avant de vous donner la feuille. 1 Pierre chapitre 4, et donc c'est les versets 7 à 11. C'est vraiment le verset 10 que j'ai en vue, mais on va lire le paragraphe. 1 Pierre chapitre 4, versets 7 à 11. Et je commence à verset 7 pour montrer dans le contexte prophétique, comme le parabole même est dans un contexte prophétique. Hein? Donc c'est pour ça que je commence avec le verset 7. Chapitre 4, verset 7. La fin de toutes choses est proche. Ah bon, ça veut dire que c'est eschatologique, ça concerne la fin des temps, la fin de notre époque au moins. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, donc le mot grâce c'est le mot don, hein? Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc ça, c'était pour nous mettre dans l'esprit de cette chose. Donc, j'ai préparé une feuille qui, un côté, ça s'appelle « Diverses applications de vos dons spirituels ». La liste n'est pas complète. Et l'autre côté, des talents et dons naturels et miraculeux avec plusieurs versets. Non, on n'a pas le temps de voir tous les versets, mais si vous voulez, vous pouvez voir les autres versets qui concernent les dons et les talents dans le Nouveau Testament. À faire attention quand vous voyez le mot « don » dans, en particulier, 1 Corinthiens chapitre 14, le mot « don » n'est pas dans le grec. Et en 1 Corinthiens chapitre 12 et verset 1, le mot n'est pas là non plus. Donc, ce n'est pas tous les versets que vous voyez le mot « don » qui ont le mot dans le grec, mais là, vous avez le mot. Voilà. Et donc, j'espère que ça va vous aider à trouver les moyens pour mettre en pratique vos capacités, vos dons. Amen.